Shohei Ohtani qui sera le partant donc dans le match de lundi. Un 9e partant utilisé par les Dodgers au mois de juin. Ça fait deux fois là, qu'il manque pour de longues périodes en raison de l'opération Tommy John.
Bon, ben premièrement, Alain, moi je suis pas surpris. Là, j'ai hâte de voir comment on va utiliser Shohei Ohtani. C'est sûr qu'il va frapper la journée qu'il lance.
Au jeu! Deuxième prise! Compte complet!
Le balado compte complet est présenté par Don Match à Boucherville et au Saguenay, votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeurs intérieur et lance-balles, fier partenaire de votre passion. Et par les Capitales de Québec, c'est plus qu'accessible, c'est plus que du baseball. Voici vos animateurs, Alain Huzeau et Marc Griffin.
Bienvenue à Compte complet et il y a beaucoup de matériel en ce lundi. Je pense que vous nous attendez, Alain Huzeau et Marc Griffin. Comme d'habitude, on va vous parler de l'actualité dans le monde du baseball et de quelques autres sujets. Évidemment, l'échange de Raphaël Devers ce dimanche soir fait jaser tout le monde baseball. On va parler aussi du retour de Shohei Ohtani prévu ce lundi. Tout n'est pas rose, l'entourage des Dodgers, ça va aider la cause, ça c'est certain. Ce sera un 9e lanceur partant pour les Dodgers au mois de juin, déjà. On va parler de la série Yankees-Red Sox, Marc. Il y a des choses que tu n'as pas aimées du côté des Yankees de New York, avec raison. Peut-être que les choses se replacent chez les Red Sox aussi. On va parler des Blue Jays de Toronto qui se sont fait balayer, mais au-delà de ça, il y a des signes inquiétants chez les Blue Jays, notamment les leaders qui en font probablement pas suffisamment. Par la suite, on va parler notre cap de la semaine, c'est Carl Yastrzemski, pas Mike, mais bien Carl. Notre portrait de la semaine, ce sera Eddie De La Cruz. Et Marc, on va parler d'un échange, bon, évidemment, avec celui de Devers. Maintenant, ça passe en second plan, mais au cours de la semaine, Andrew Vaughn a été échangé pour Aaron Civale. Les deux équipes avaient probablement des raisons d'échanger ces joueurs-là, mais tu comprends, ce sont des situations complètement différentes. Tu vas nous parler que le fait que c'est pas parce que tu es un gros prospect qu'il y a une garantie que ça va fonctionner. Et je précise qu'au cours de la semaine, il y a des entretiens qui vont s'ajouter, dont celui réalisé par Marc au cours des derniers jours avec Dayton Lachance, qui s'en va dans la NCAA après un séjour dans les Junior College, lui qui a été brillant. Je vous invite à entendre cet entretien à compter de jeudi. Marc, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Raphaël Devers a été échangé. La première réaction, Marc, c'est, on en avait déjà parlé. Moi, je m'attendais à quelque chose de gros chez les Red Sox. Je ne savais pas si c'était pour être cette année ou même dans l'entre-saison, mais avec la venue des trois gros prospects, on ne voit pas ça souvent, Marc, des prospects de ce niveau-là en même temps arriver au sein d'une équipe. Mais on prévoyait qu'il y avait quelque chose qui était pour arriver. Est-ce que c'est Bregman qui ne reviendrait pas? Même qu'on parlait d'Abreu, peut-être même Duran. Et là, c'est Devers qui part. Il y avait toutes sortes de raisons. Est-ce que c'est lui qui a créé son propre départ avec ses réactions vis-à-vis changement de position, etc.?
Ben, écoute, c'est sûr que ça n'a pas aidé. Et de toute évidence, je me demande à quel point on voulait que les trois soient rappelés dès cette année, avant la pause du match des Étoiles. Je ne sais pas si c'était dans les plans. Mm-hmm. Mais chose certaine, le message, là, c'est un peu, ben, écoute, on va se fier à l'avenir au détriment du présent. C'est un peu ça parce que il reste ton meilleur frappeur. Prends n'importe quel joueur dans n'importe quelle équipe, tu te dis, on échange notre meilleur frappeur. C'est pas le signal que les partisans des Red Sox normalement voudraient. Je sais qu'on est émotif chez les partisans des Red Sox. Si on regarde froidement tout ça, Alain, c'est pas un bon contrat qu'on avait donné à Raphaël Devers. On le sait, on en parle souvent, les contrats de 10 ans, là, ça vieillit toujours très mal. Donc, on se débarrasse de 250 millions, parce que faut-il le rappeler. Les Giants prennent la totalité du contrat qui va jusqu'en 2033. Donc, c'est un long contrat. Mais c'est sûr que le message est pas super. C'est ton meilleur frappeur de loin. Tu viens de remporter 5 matchs de suite. Tu viens de balayer les Yankees. Il y a comme un élan. Tu as l'impression qu'enfin la saison a vraiment décollé là, au cours de la dernière semaine. Là, paf, tu l'échanges. Donc, je comprends qu'on peut être très frustré de bien les manières. Ça reste que, moi, je trouve que le test, vraiment, c'est que là, tu libères 250 millions, bon, financièrement pour les prochaines années. Maintenant, est-ce que on va signer Bregman? Est-ce qu'on va bouger cette année pour aider les jeunes pour aller, tu sais, parce que on peut aller via transaction, on peut aussi aller chercher un autre joueur qui va venir nous aider, qui n'a pas évidemment un contrat de 250 millions sur les prochaines années. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là, autrement dit, là, qui vient d'être libéré là, comme ça chez les Red Sox? Mm-hmm. Il y a plein de questions là-dedans, Alain. Il y a plein de questions. T'as raison de mentionner, est-ce que son attitude... D'ailleurs, plusieurs posent la question maintenant, est-ce que Buster Posey va l'accueillir en premier avec les Giants pour dire, bon, ben là, il s'est passé ça à Boston. Maintenant, nous, ça va être clair. Est-ce que tu veux jouer au troisième? Parce que là, il y a l'absence de Chapman pendant un petit bout de temps encore. Est-ce que tu veux jouer au premier but? Parce que ça se peut qu'on ait besoin d'être là. Alors, j'ai hâte de voir quelle sera l'attitude des Giants à ce niveau-là. Mais c'est clair qu'il y avait un conflit, Alain. Ça, c'est, et là, un conflit entre l'organisation et le joueur vedette, celui-là jusqu'en 2033. Est-ce que c'est réellement ça? Est-ce que c'est qu'on se débarrasse de ce contrat-là? Il y a bien des choses, mais ce qui est évident, c'est qu'il y a une certaine... il y a une frustration chez les partisans des Red Sox.
Marc, je veux qu'on revienne sur ce que tu as dit tantôt quand tu parles du contrat de Devers. Est-ce que c'est un si mauvais contrat que ça? Je regarde son rendement depuis qu'il est devenu officiellement le troisième but d'équipe. C'est un MPP global à 8,79. Et là, c'est sur quand même une longue période de 7 saisons, de 2019 à aujourd'hui. Tu regardes ce qui se donne ailleurs. Est-ce que c'est un si mauvais contrat que ça?
Non, parce que, en fait, oui, en raison, tu sais, Alain, combien d'années qu'il va te donner encore? Bon, premièrement, là, je vais dire que c'est probablement le frappeur le plus mésestimé. C'est un producteur de points nés. Mm-hmm. Il a été plus que bon avec les Red Sox. Il produisait. J'étais le premier, moi, rappelle-toi, Alain, lorsqu'il est arrivé dans le baseball majeur, j'étais pas certain de Raphaël Devers. Je trouvais que son élan était un petit peu long. Pas lent, mais long. Je me suis dit, est-ce qu'on va abuser de la balle rapide contre lui? Ouais. Effectivement, c'est peut-être un peu la manière de le retirer, mais écoute, il frappe, je veux dire, il répond, c'est extraordinaire, il l'a connu. Mais, je veux dire, Alain, on est en 2025, là. Il restait 8 ans au contrat, là. Est-ce qu'on peut maintenir ce rythme-là? Tu le sais, là, les contrats à long terme des gars qui passaient un certain âge.
Oui.
C'est sûr que les Red Sox, eux, en ont eu pour l'argent.
Oui.
Bon, là, ça sera les Giants de tête terminée s'ils vont l'avoir pour leur argent éventuellement. Mais, écoute, ça rassurait peut-être les Giants. Là, on le dit souvent, les Giants cherchaient, bon, des joueurs depuis quelques années, des joueurs autonomes qu'on était incapables de signer. Fait qu'on est allé chercher via transaction. Mais ça reste un message qui est quand même ordinaire pour les partisans. Même si tu regardes financièrement, ça fait du sens. Ça donne toute la liberté maintenant aux 3 joueurs d'avenir de dire, regardez, c'est votre temps, là, le moment, c'est maintenant, puis on va se développer maintenant, mais on va amener les Red Sox à un autre niveau, mais peut-être pas cette année, c'est un petit peu ça. Alors qu'on sait qu'à chaque année, les partisans des Red Sox veulent gagner le titre de la division, veulent devancer les Yankees de New York. On avait aussi l'impression, Alain, que Boston voulait dépenser un petit peu de temps. On va chercher Bregman. On s'était dit, bon, mais enfin, là, on rentre encore dans le rang des équipes qui vont dépenser, qui veulent rattraper les Yankees. Puis là, pouf, c'est une transaction comme ça au mois de juin.
Oui. Marc, on va parler du point de vue des Giants maintenant. Ça fait longtemps qu'on cherchait un gros morceau. On est allé vers Judge, on est allé vers Correa, on a tenté notre chance avec Otani, ça n'a pas marché. Pour toutes sortes de raisons, il y avait des marchés plus alléchants, notamment celui des Dodgers. Et là, on s'en va chercher, enfin, un gros nom. Oui, Adames, Marc, c'était bien beau. Et c'est un joueur étoile, tu l'as beaucoup aimé, t'aimes l'énergie que ça apporte à cette équipe-là. Mais le gros wow, on l'avait pas. Là, on l'a avec Raphaël Devers. Puis là, je veux juste, bon, un petit mot sur le contrat, Marc. J'avais tendance à être d'accord, là, je te challengeais un peu, je te mettais au défi. Comme frappeur désigné, c'est un contrat qui était trop cher. Comme troisième but, il n'y avait pas de problème. Comme frappeur de choix, je trouve que c'est de l'argent. C'est beaucoup donné pour quelqu'un qui ne fait que être frappeur désigné. Bon, ceci étant dit, j'ai regardé les statistiques juste pour voir, Marc, à l'étranger et à domicile, du côté de Raphaël Devers, depuis le début de sa carrière, parce qu'il a passé sa carrière au Fenway Park, il frappe plus de circuits à l'étranger Et c'est quand même pas négligeable ce que j'ai vu. 120 circuits à l'étranger, 95 au Fenway Park. C'est le nombre de doubles, Marc. C'est, je veux dire, le Fenway Park, c'est un stade de double. Il en frappe beaucoup plus au Fenway Park qu'il en a frappé à l'étranger. C'est un MPP qui est supérieur, mais dans les deux cas, on parle de MPP, tu comprends, au-dessus de 800. Donc, j'imagine que les Giants ont fait leur devoir à cet égard-là.
Oui, puis effectivement, là, moins de doubles peut-être. Ça dépend, il faudrait regarder vraiment l'espèce de charte, voir est-ce qu'il frappe beaucoup de balles dans le champ centre, tu sais, parce qu'on sait qu'à San Francisco, là, du champ centre au champ droit, là, ce ne sera pas évident. D'ailleurs, tu sais, tu m'ouvres la porte. Est-ce que aussi, on n'a pas parlé, mais est-ce que le retour pour Raphaël Devers était suffisant aussi pour les partisans des Red Sox de Boston? Est-ce que le fait qu'on paye la totalité du contrat chez les Giants fait en sorte qu'on a, tu sais, on n'a pas un joueur, pas le prospect numéro un là, des Giants dans la transaction? Là. Des joueurs qui vont aider, certes, peut-être, mais et des deux joueurs d'avenir où bon, c'est un avenir incertain encore en ce moment. Alors, c'est un petit peu ça aussi qui agace les partisans des Red Sox. Et d'autre côté, les Giants ne se font pas trop mal, là, évidemment, en allant chercher ce contrat-là. Là.
Oui, écoute, c'est une transaction vraiment là, qui est venue de nulle part. Compte tenu de la façon dont ça s'était terminé au cours de la fin de semaine contre les Yankees de New York, sa dernière présence de Devers, ça aurait été un coup de circuit contre les Yankees de New York. Et par la suite même, on l'a interrogé et dit, bon, les Red Sox, on est sur la bonne voie, etc. On en parlera tantôt. Mais ça a sonné le monde baseball, Marc. Mais comme je le mentionnais, je suis pas surpris que quelque chose de gros arrive chez les Red Sox. C'est juste quand ça arrive, whoop, paf, ça nous explose en plein visage. Mais compte tenu de l'arrivée des jeunes, il fallait leur faire de la place à un moment donné. Puis il y a trop de choses qui sont arrivées, j'imagine, du côté des Red Sox pour dire, regarde, les ponts sont définitivement...
C'est peut-être effectivement arrivé plus tôt qu'anticipé, Alain, compte tenu du fait que, ben justement, là, on était sur une meilleure séquence. Les jeunes arrivent, les jeunes sont pas nécessairement prêts. Là, on a vu quelques jeux là, autant meilleurs que... Tu sais, je veux dire, c'est correct. Il va falloir quand même comprendre qu'on vit avec des jeunes maintenant. Ça va peut-être... Ben écoute, ça va laisser de la place pour Abraham Toro, certes. Toro qui va très bien. Ça va faire en sorte qu'on va le garder à Boston pour au moins cette année. J'ai hâte de voir. Là, on dit que la blessure à Bregman, ça va beaucoup mieux. Ça guérit plus vite que prévu. Ça, c'est intéressant. Mais là, la suite est quand même à suivre du côté des Red Sox. Parce que comme j'ai mentionné, là, est-ce qu'on a libéré un petit peu d'argent? Est-ce que c'est un coup d'argent uniquement? Est-ce que c'est un coup d'argent combiné au fait qu'on avait perdu un peu cette synergie entre les deux, l'organisation et Devers? Est-ce que c'est vraiment pour faire place aux jeunes? J'aimerais ça être dans le vestiaire des Red Sox actuellement, puis au moment où on a appris la nouvelle, voir quelle est la réaction de tout ça. Parce que Boston reste un gros marché, Alain. C'est un peu spécial comment on gère ça, là, on va se le dire. Là. Tantôt, tu as l'impression qu'on veut vraiment faire de l'économie de bout de chandelle parce que ça n'a pas marché. Puis la Chain Blue, mais on l'a sacrifié à ce niveau-là. Puis le whoops, tu sais, là, on décide de payer. Rappelle-toi le contrat de Trevor Story. Tu sais, je veux dire, on avait un peu paniqué. On s'était dit, les partisans veulent quelque chose. On signe Trevor Story. Là, on est encore prêt avec. Alors, écoute, c'est un peu spécial ce qui se passe, là.
Marc, on va passer d'un extrême à l'autre. On va passer de la côte est à la côte ouest. Marc, on l'a fait avec les Giants, mais on va rester en Californie avec Shohei Ohtani, qui sera le partant donc dans le match de lundi. Un 9e partant utilisé par les Dodgers au mois de juin seulement. On joue pour 500 avec la victoire contre les Giants dimanche soir. On joue pour 500, deux matchs devant les Giants dans l'ouest. On se croise les doigts, j'imagine, là, pour que ce ne soit pas seulement quelques départs et puis on repart à zéro dans le cas de Shohei Ohtani, parce que ça fait deux fois là, qu'il manque pour de longues périodes en raison de l'opération Tommy John.
Bon, ben premièrement, Alain, moi, je suis pas surpris que Ohtani... J'avais dit au début du mois de juin, avec des images que je voyais. Évidemment, là, je n'étais pas sur place, mais en fouillant, il y a des images de lui qui affrontait des frappeurs. Plusieurs fois, c'était un programme de réhabilitation là, très, très concis. Mais là, je me disais, il va lancer au mois de juin, ce gars-là. Là. Je voyais lancer, puis il affrontait, comme je l'ai mentionné, des frappeurs, évidemment, des Dodgers. Là. Et là, on s'est dit, chez les Dodgers, ben, t'sais, ça demande beaucoup d'énergie là, de faire tout ça. Puis en plus, il doit jouer là, le soir, tout ça. Donc, On s'est dit chez les Dodgers, ben là, on va le faire, tu sais, on va l'insérer. Là, j'ai hâte de voir comment on va utiliser Shohei Ohtani. C'est sûr qu'il va frapper la journée qu'il lance, mais est-ce qu'on lui donne une journée de congé mardi? Est-ce qu'Ohtani va vouloir être frappeur de choix dès mardi? Un petit bout de temps, là, qu'il n'a pas fait les deux, là, donc ouais. Il y a comme une espèce de retour. Écoute, mais Alain, ce qui est incroyable, c'est que dimanche soir, il est 3-3, il est 4 fois sur les buts, puis lundi, il va lancer. C'est quand même assez exceptionnel ce que ce gars-là fait. Puis les Dodgers ont effectivement besoin de lui au monticule. Là, attendez-vous pas un match complet. Là, on va être très, très, très prudent dans son cas, mais j'ai quand même hâte de voir comment il va se comporter. Puis là, on a la fameuse règle Shohei Ohtani. Donc, il va frapper. Puis lorsqu'il va quitter, il va pas rester. J'ai hâte de voir aussi qu'est-ce que ça va donner. Et formation des 26 joueurs, il comptera pas comme un lanceur. Alors que souvent, c'est 13 lanceurs.
Ouais, donc, c'est limité.
Alors c'est une fenêtre intéressante pour les Dodgers à ce niveau-là.
Oui, et ça vient, Marc, au moment où en fin de semaine, Rocky Sasaki a dû interrompre une séance tout simplement de lancer sur le plat, là, tout ce qu'il y a de plus simple. Et Marc, son retour est très incertain cette année. Lui, on sait qu'il avait été très en demande dans l'entre-saison. Parmi les lanceurs, en fait, c'est lui qui était en haut de la liste de tous les prospects. Donc, la venue d'Ohtani vient atténuer un peu cette très mauvaise nouvelle.
Oui, exact. Et écoute, effectivement, les Dodgers signaient à peu près tout le monde durant l'hiver, mais finalement, ça n'a pas encore donné les résultats souhaités. Donc, c'est beau dépenser. C'est beau de prendre courir des risques à ce niveau-là, mais là, on voit aussi l'envers de la médaille. C'est que là, ça coûte cher, puis on n'a pas le rendement. Donc, mais les Dodgers, c'est une organisation qui est capable, évidemment, de subir ces contre-coups-là. Ce sont bien les Dodgers, mais c'est sûr qu'il est jeune encore. Ça, c'est la bonne nouvelle, mais effectivement, là, on aimerait trouver une solution parce que ce que tu mentionnes, Alain, c'était qu'on voulait lancer à 60 pieds seulement, là, une douzaine, tu sais, juste vraiment se lancer là, avec un partenaire. Là,
ouais.
Et on n'a même pas été capable de compléter ça.
Oui. Et je veux juste mentionner, Marc, depuis le début de la saison, les Dodgers ont utilisé 14 partants. Donc, Shohei Ohtani sera le 15e et 30 lanceurs ont été utilisés. Shohei Ohtani sera le 31e.
Mais on est encore en première place. C'est une première place. Puis c'est pour ça que des départs comme Dustin May hier, dans le cas du match de dimanche soir, on va prendre n'importe quand. Là. C'est pour ça qu'on vit avec les buts sur balle, les frappeurs atteints, les quelques coureurs sur les buts, mais on a besoin des départs de six manches. C'est pour ça que le départ de Clayton Kershaw au cours du dernier week-end a été un gros soulagement, mais on espère qu'il est capable d'en donner un petit peu au cours des prochaines semaines.
Là. C'est dans la question de la semaine qui est présentée par Sylmar Autoville. C'est votre détaillant pour les pneus de voiture et de camions classiques et antiques. Consultez le www.sylmar.ca. Et on s'adresse principalement aux partisans des Red Sox de Boston. Il y en a beaucoup au Québec. Et êtes-vous déçu du départ de Raphaël Devers? Je pense que c'est un dossier qui a polarisé un peu les partisans des Red Sox au cours des dernières semaines. En fait, depuis le début du camp d'entraînement même. Donc, on vous invite à mettre vos commentaires. Ça peut être sur notre page Facebook, facebook.com/compte-complet-balado. Vous pouvez aller aussi directement sur compte-complet.com.
Alain, c'est le moment de souligner nos partenaires, nos principaux partenaires. Le plan de match, évidemment, toujours depuis le début là, avec nous. Boutique, évidemment, de baseball. Une à Boucherville, l'autre dans la belle région du Saguenay, à Jonquière plus précisément. À Boucherville, cage de frappeurs, cours privés. D'ailleurs, je vous dis ça en passant, là, deux de mes fils donnent des cours privés. Alors, si ça vous tente de prendre des cours privés avec mes fils, bien, allez sur le site d'un plan de match. Et évidemment, c'est la belle saison, là, donc équipement. Je souligne également, évidemment, les capitales de Québec qui sont devenues nos partenaires récemment. On les remercie beaucoup. On suit les capitales de près et on les encourage, évidemment.
Amateurs de baseball, Viens vivre l'expérience des capitales au Stade Canac. Du baseball professionnel, une ambiance électrique, le tout dans un stade de baseball mythique au cœur de Québec. Billets sur capitaldequebec.com.
Marc, on va revenir sur, on va parler encore des Red Sox, mais on va revenir sur la série opposant les Red Sox aux Yankees de New York. Au cours des 10 derniers jours, on s'est affronté 6 fois et les Red Sox ont gagné 5 de ces matchs. Deux séries complètement différentes. Il y a eu une avalanche de points au Yankee Stadium alors que l'attaque s'est tenue bien tranquille de la part des deux équipes au cours de la fin de semaine au Fenway Park. Chapeau au personnel de lanceurs des Red Sox. Marc, les trois partants ont été extraordinaires, particulièrement Garrett Crochet, même si c'est le seul qui n'a pas eu droit à la décision. Peut-être un des meilleurs matchs de la saison, celui de vendredi. Là, Crochet qui a été splendide. Et d'ailleurs, on pourra parler de la décision de le garder en 9e manche. Ça, c'est, écoute, il y a un mélange de baseball moderne dont on pourrait parler. Et quand tu parles que le baseball donne droit à des discussions, ça, c'est un bel exemple. Toujours est-il que les Red Sox, ils ont balayé en fin de semaine. Ils ont joué de la très bonne balle. Mais t'as pas été impressionné, toi, par les Yankees?
Ben, j'ai pas. Tu sais, les Yankees, Alain, on a toujours l'impression qu'ils sont bâtis pour. On frappe des circuits. Bon, Judge connaît encore une fois une saison remarquable, même si on l'a maîtrisé 1 en 12 à la série. Mais la course sur les buts, c'était probablement l'aspect baseball le plus négligé, Alain. Par les joueurs modernes, je trouve. On court très mal les buts. Là. On va se le dire, là, c'est même pas, c'est moyen, on court mal les buts. Là, je parle pas de coureurs rapides. Là. Je parle de bien courir, lire le jeu, comprendre ce qui se passe sur le terrain. C'est quoi, c'est quand le moment de voler ou pas voler, ou c'est quand le moment de prendre le premier jusqu'au troisième. On a l'impression qu'on prend pas l'information. Les bras des voltigeurs, peu importe. Je trouve que ça, c'est un aspect là, qui je dirais que c'est la même chose dans le baseball amateur, mais bon, on dit qu'on s'entraîne pas beaucoup à déposer des amortis alors qu'on en demande. Ben, la course sur les buts, je n'ai pas l'impression qu'on prend du temps pour l'expliquer, mais bon. Dans les matchs serrés de la sorte, Alain, ce sont des matchs qui sont terminés par un point, là, des matchs toujours très, très, très serrés. Écoute, les Yankees se sont fait là, surprendre sur les sentiers comme... T'sais, comme t'sais, on connaissait pas l'enjeu, comme si on n'avait pas l'idée de la situation. Chapeau aux Red Sox, en fait, là, qui ont profité là, de ces erreurs, mais qui ont aussi peut-être créé ces erreurs, mais pas, en fait, les erreurs des Yankees sur les sentiers, la prise de décision, l'écart au deuxième qui est exagéré. Ça m'impressionne pas, Alain, puis ça me fait penser aux Yankees l'année dernière. Et rappelle-toi, ouais, en Série mondiale, lorsqu'on avait discuté avec Dino Hebel, qui était un entraîneur chez les Dodgers après la Série mondiale, qui nous disait on était bien préparés, on savait que les Yankees allaient s'enfarger. Il nous l'avait dit, puis ça me fait peur. Je veux dire, ça, là, c'est un point qu'il faut que les Yankees règlent. T'sais, si on veut gagner, là, c'est pas juste d'avoir des bonnes sorties de tes lanceurs partants, puis d'avoir une relève. Il faut jouer du bon baseball de base. Regarde comment c'est. Rapidement, là, le portrait change. Là, tu perds, tu sais, je veux dire, il y a des équipes qui ont pris trois matchs au cours du week-end parce que, d'ailleurs, il y a eu 9 séries de balayage au cours du week-end. Là, ça a été tout à fait extraordinaire, là, à ce niveau-là. Mais toujours est-il que, tu sais, les Yankees ont une belle réputation de frapper, puis de laisser les circuits, la puissance, mais lancer fort. Mais Alain, entre les deux, il faut bien jouer en défense. On a amélioré cet aspect-là du côté des Yankees cette année. Mais il faut aussi bien courir les buts. Ça, je ne suis pas certain qu'on l'a tant amélioré.
Oui, effectivement. Marc, dans cette série-là, ce qui m'a frappé, les deux derniers matchs, on avait des avances en fin de match. Chapman n'a pas été utilisé. On dit qu'il n'est pas blessé. Dans le cas de dimanche, Coral l'a bien dit, Whitlock présentement est sur une très très bonne séquence, ce qui est exact. Il a contribué à la victoire vendredi. Il a été le lanceur gagnant. Dimanche, c'est lui qui a eu le sauvetage. D'ailleurs, a forcé Aaron Judge à frapper dans un double jeu en fin de rencontre. C'est là que le match s'est joué. C'est pas compliqué. Là. Dans le cas de Whitlock, c'est quand même étonnant. Marc, est-ce qu'il va finir la saison avec les Red Sox? J'irai jusque-là, moi. Si tu ne l'as pas sorti à ce moment-là, tu vas le sortir quand?
Non, mais attention, Alain, parce qu'Alex Cora, il semble avoir des petits problèmes de communication. Ça je pense que c'est... Puis là, je trouve ça de valeur, là, parce que c'est dans le baseball moderne, ça, c'est un aspect qui est important. Mais il va avec le joueur avec lequel, au moment où ça se déroule, tu sais, qu'il se sent plus à l'aise. Dans le cas ici, tu as Aaron Judge qui s'est amené frapper, tu as un gars qui lance des rapides tombantes, tu visais la balle à double jeu. Alors qu'évidemment, Chapman, c'est le seul coup de circuit, ou en fait, le seul coup sûr de Judge dans cette série-là, c'est contre crochet avec un coup de circuit gaucher qui lance fort. Est-ce que c'était vrai? Tu comprends? Avec, je ne paniquerais pas encore là-dessus. Dans le sens que je dirais pas là que là ça les Yankees, pas les Yankees mais les Red Sox sont en mode transaction, on vient d'échanger de Verse, on va échanger de Chapman, pas rendu là dans le sens que laissons aller la prochaine semaine dans le cas de Chapman juste pour voir si effectivement on veut pas insérer par exemple un Whitlock dans une situation bon de balle à double jeu alors que Chapman pourrait arriver autrement. Moi en tout cas je suis un petit peu plus patient à ce niveau-là, mais si ça se répète à nouveau, Alain, au cours de, je sais pas, la prochaine semaine ou du prochain week-end. D'ailleurs, juste en passant, les Red Sox sont à San Francisco à compter de vendredi. Oui. Tu sais, on pourra voir ce qui se passe avec Chapman à ce niveau-là. Mais écoute, tu veux dire, si tu peux avoir un droitier et un gaucher en fin de match, dépendamment de ta situation, là, ça devient des belles cartes à jouer pour le gérant, là.
Oui. J'avoue que je trouve ça encore étonnant. C'est ton gros gars, tu ne l'as pas utilisé deux fois plutôt qu'une. Greg Weissert, c'est un bon soldat, Marc. Tu comprends qu'il n'y a pas le CV de Harold Chapman.
Non, écoute, il y a des choses qu'on ne sait pas non plus, Alain. Là. Il y a ouais. peut-être, on s'est dit, écoute, on va lui donner vraiment, bon, il y a des choses qu'on sait. Ouais. C'est pour ça que j'aimerais mieux être un peu plus patient dans ce dossier-là, ouais. avant de dire, là effectivement, là, ça commence à être évident, là.
Marc, ça se replace dans l'Est de l'Américaine. Là, il y a quatre équipes qui jouent pour 500, alors qu'il n'y en avait qu'une seule il n'y a pas si longtemps. Ça inclut les Blue Jays de Toronto. On se disait, Marc, il y a deux semaines, quand cette période-là de deux semaines a commencé, là, les Blue Jays, on va voir de quoi ils sont faits. C'était bien parti. Là, on s'est fait balayer par les Phillies et balayer coup de pied dans le derrière, solide. Peut-être que les Phillies en devaient une aussi aux Blue Jays. La tenue de Vlad Guerrero, Marc, me déçoit. Je vais te dire, on lui a pas donné ce contrat-là pour avoir un MPP à 802.
Ben, écoute, Alain, tu sais, moi, je suis d'accord avec toi, premièrement. Vlad, il nous, tu sais, aux deux ans, là, j'ai l'impression que c'est un joueur par excellence. Ouais. Puis là, il tombe dans une saison qui est bonne, qui est très bonne, mais effectivement, qui n'est pas d'un gars à qui on donne tout cet argent. Donc, parce que, écoute, on a, avant cette série-là, c'est pour ça qu'on disait tantôt, ça peut changer rapidement. Les Blue Jays avaient réussi à avoir un différentiel positif. On s'est replaté, mais drôlement bien, au classement. Puis là, on retourne négatif, on est à moins 12. Là, tu parles d'un balayage, là. C'était effectivement tout un balayage de la part des Phillies. On tombe à moins 12, on en perd 3 de suite. Bon, les Yankees en ont perdu 3 de suite. On n'a pas perdu trop de terrain pour la première place, mais pendant ce temps-là, on a vu les Rays nous dépasser, puis pas à peu près, et les Red Sox se rapprocher. J'aime ce que je vois de l'équipe parce que les jeunes vont bien. Clement continue d'aller bien. Barger va bien, mais ça te prend ta locomotive. Mm-hmm. C'est pour ça que les partisans des Red Sox sont en beau fusil parce qu'on perd la locomotive en Devers, là. Mais ça te prend une locomotive, puis tu sais, avec avec Santander qui n'a pas produit, Varsho qui est toujours blessé, tu sais, c'est encore Bichette puis Guerrero, mais c'est à Guerrero qu'on a donné le gros contrat, là.
Oui.
Fait que il faut que Vlad trouve le moyen de se mettre en marche. Semble-t-il que c'est vrai que les statistiques, si on les compare à l'année dernière, c'est encore à peu près similaire. Mais tu sais, là, ça fait un petit bout. Ça fait une couple de semaines qu'on dit ça. Là, et maintenant, il va falloir qu'il parte sur une lancée pour vraiment supporter l'équipe dans le cœur de la formation. Là, je pense que le dernier week-end nous prouve qu'il faut qu'il soit capable de passer à la prochaine étape. Alors, c'est sûr que Vlad doit le sentir. Là, je pense que c'est le premier à comprendre que c'est pas le rendement nécessairement souhaité, mais il y a beaucoup d'espoir parce qu'il l'a prouvé dans le passé. Il est jeune. Moi, je pense que Vlad va nettement s'améliorer en deuxième moitié de saison. Mais il va falloir le faire, là. Parce que les Blue Jays vont avoir besoin d'aide à ce niveau-là.
Oui, remarque, il n'est pas seul. Les acquisitions des Blue Jays jusqu'ici, Marc, dans l'entre-saison, on ne peut pas dire que la contribution est optimale, là. Je pense à Santander, notamment, là. Scherzer, qui on attend encore son retour, mais ça. comme tu dis souvent, on aurait pu leur dire avant que la saison commence que c'était pour se passer comme ça. Dans le cas de Jiménez, de demander une contribution offensive, c'était peut-être un peu trop demandé, mais c'est sûr qu'on n'a pas eu l'aide escomptée de la part de ces acquisitions-là.
Bien, c'est ce que je trouve. Il y a deux côtés pour voir ça. Tu peux dire que c'est épouvantable, puis... Mais l'autre côté, moi, je pense qu'il y a beaucoup d'espoir. Les Blue Jays jouent quand même, tu sais, au-dessus de 500. On est dans la course. Puis on n'a aucune contribution de Santander. Tu as parlé de Scherzer, là, ça c'est encore pire. Fait que, tu sais, je me dis, on a découvert Varsho. Je pense que le Varsho est un incontournable. On a un joueur qui est intéressant. Clement est pas mal meilleur, tu sais, sur une... Je trouvais que le gars-là manquait de constance, mais là, force est d'admettre que depuis pratiquement un mois, c'est une très belle constance. J'aime mieux lorsqu'il est au deuxième et Barger, par exemple, au troisième dans ce cas-ci. Puis là, tu te dis, ben Guerrero devrait en donner plus. Bichette pourrait en donner un petit peu plus. Puis là, tu te dis, Mané Santander, tu sais, je veux dire, ça va. Il faudrait qu'il joue premièrement, là, mais lorsqu'il va revenir en santé, tu sais, je veux dire, il peut apporter quelque chose. Alors, je me dis qu'il y a quand même de l'espoir là, du côté des Blue Jays. Malgré tous ces défis-là, on se maintient quand même très bien au classement puis dans le rendement. Donc, moi, je suis optimiste quand même là, pour les prochaines semaines du côté des Blue Jays de Toronto. Mais tu sais, ça va prendre des gestes concrets. Là. Un retour de Santander qui est pas mal meilleur, puis évidemment un Vlad qui produit davantage, etc., etc. Là.
On est là à peu près où on est supposé d'être, Marc. C'est pas compliqué. Là. Je regardais à l'attaque, le MPP plus est à 100, donc on est dans la moyenne. Et la moyenne de points mérités plus est à 100.
Si tu mets ça, on est dans la moyenne, mais c'est ça. On est dans la moyenne avec un Vlad qui pourrait en faire plus, avec un Santander qui est définitivement pour en faire plus, avec un Varsho qui n'a pas joué, avec ci, avec ça, avec un Scherzer qui n'a pas... Donc, tu sais, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Si on est capable de ramener ce monde-là un petit peu là, et de les voir jouer à la hauteur de leur talent.
Oui. Marc, il y a des choses qu'il faut qu'ils changent, par exemple, parce que si on termine la saison ou si Ernie Clement demeure le meneur de l'équipe pour le War, je pense qu'on est dans le trouble, avec tout le respect que je peux avoir pour Ernie Clement.
Oui, c'est pas supposé être comme ça, c'est vrai. Mais c'est ça. Ce qu'il donne est extraordinaire. Ouais. Comme Barger, comme par exemple ces gars-là, les jeunes donnent beaucoup d'énergie, mais tu as tout à fait raison. Là. On peut pas, ça peut pas être comme ça à la fin de l'année. En fait, si ça l'est, ben ça veut dire qu'il va avoir frappé. Non, mais c'est vrai. Il faut pas que ça soit ça.
Ben, c'est le temps de la carte de la semaine, qui est une présentation de Cadre d'Union Dépôt.ca. C'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives, avec plus de 60 000 articles en vente sur eBay. Une cote parfaite de satisfaction à 100%. On jette notre dévolu sur Carl Yastrzemski. C'est la carte 1960. Il n'avait même pas joué encore dans le baseball majeur. 1960. La carte numéro 148. Il était déjà établi comme un prospect de premier plan. J'y reviendrai. Carte recrue de Sport Magazine, Rookie Star. Puis tu comprendras avec les recrues, les cartes recrues qui se rendent au Temple de la Renommée sont les plus courues et c'est la plus convoitée. 9266 cartes différentes recensées par TradingCardDataBase.com. Ça, c'est l'ensemble des cartes de Carl Yastrzemski au cours de sa carrière. Son fils a joué dans le baseball mineur sans beaucoup de succès et son petit-fils, on a raconté son histoire. Je pense l'histoire du petit-fils, Marc, est aussi fascinante que celle du grand-père. On va s'arrêter sur le grand-père. Comme je le mentionnais, c'est un gars de la région de New York et très tôt s'est établi comme un prospect de premier plan. Il a joué 2 ans dans le baseball mineur et à 21 ans, était régulier avec les Red Sox de Boston. A remporté la triple couronne, c'est en 1967, les Red Sox se rendant en série mondiale cette année-là. L'année suivante, une baisse de production, me direz-vous, il n'a frappé que pour 301. Le hic, Marc, c'est que c'est le seul joueur de la Ligue américaine à avoir frappé pour 300 cette année-là. Donc, il a remporté 2 fois de suite le championnat des frappeurs avec les Red Sox. Une des très, très grosses vedettes de l'histoire de cette concession-là. Enfin, Marc, il a perpétué la tradition au champ gauche chez les Red Sox de Boston, même s'il a joué à d'autres positions, premier but notamment. On a eu Ted Williams. Carl Yastrzemski a continué cette tradition-là. Jim Rice a suivi. Et pour certains même, on s'attendait à ce que Mike Greenwell ait une très longue carrière par la suite. Greenwell, ce sont les blessures qui ont malheureusement écourté une belle carrière. Marc, c'est de ton époque, Mike Greenwell. Je ne sais pas, on vantait son élan. Je ne sais pas si peut-être pas au même niveau que Ken Griffey, mais semble-t-il que Greenwell avait lui aussi un très bel élan. Bref, Yastrzemski, c'était une carrière qui s'est étendue. Et Marc, au match étoile de 1982, tu étais là. C'est le joueur de la Ligue américaine qui a reçu la plus belle ovation parmi les spectateurs qui étaient présents.
Non, mais écoute, son nom est associé directement au succès des Red Sox. Là, je veux dire, c'est un nom particulier, ça sort, écoute, toute une carrière, effectivement.
Oui, et juste une petite anecdote, Marc, on l'avait raconté lorsque Mike Yastrzemski a commencé sa carrière avec les Giants. On lui demandait au début s'il voulait porter le numéro 8. Il a dit non, il ne voulait pas ajouter de pression. Il semble juste avec le nom, t'avais pas de. C'était pas... Il l'avait ouais. Déjà. De faire le lien, c'était pas très, très difficile. Carl Yastrzemski, c'est la carte de la semaine.
Le baseball, c'est plus qu'un divertissement. Après des mois d'inactivité, on veut bouger sur des terrains de balle. Rendez-vous au baseballquebec.com. Débranche tout et on va jouer dehors. Ce sera ton été de baseball.
Comme à l'habitude, à chaque semaine, on vous encourage à la lecture avec les livres de la série de Baseball Bob. Vous pouvez aller sur le site internet www.baseballbob.ca de notre ami Bob McDuff, qui a écrit et pondu quelques livres destinés aux jeunes avec le thème central de baseball. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire la promotion de son dernier bouquin. Sorti quatrième livre de cette série, Baseball Bob et le chant des tournesols. Donc, je vous invite à vous procurer ce bouquin, de même que les autres de la série de notre ami Bob McDuff. Le profil de la semaine, Eli De La Cruz, un des joueurs les plus spectaculaires du baseball majeur. Marc, on l'a mis sous contrat, lui, en 2018, et très tôt s'est établi comme un prospect de premier plan avec les Reds de Cincinnati, un physique pas comme les autres, un grand élancé. Il a un frère jumeau, c'est pas un jumeau identique, si vous voyez les deux, il y a absolument rien en commun entre les deux. Il doit y avoir presque 30 cm de différence à la grandeur entre les deux. On a tout donné au même, dira-t-on. Mais dans le cas d'Eli De La Cruz, Marc, tu le vois sur le terrain, il peut pas passer inaperçu.
Ben, Alain, lorsqu'on parle avec Alex Agostino de découvrir, pas découvrir, mais d'aller chercher un joueur qui coûte 6 pieds 5, 200 livres, qui court comme le vent, qui lance pratiquement 100 000 à l'heure. Lorsqu'il lance la balle au premier but, c'est tout rêve d'un dépisteur, c'est de trouver un gars comme ça. Je veux dire, c'est vraiment ça. Puis là, ben, puis en plus, il est grand, mais il est coordonné. Tout rentre en même temps. Tout est connecté ensemble. Vraiment, c'est tout un athlète. Et je comprends les partisans des Reds d'être impressionnés. D'ailleurs, il va beaucoup mieux et ça paraît, les Reds vont mieux également. Donc vraiment, là, Alain, ça, c'est lorsqu'on parle des 5 atouts, là, frapper pour la moyenne, frapper pour la longue balle, on pourrait parler de la moyenne, mais certainement la longue balle, coureur très rapide, bon gant en défense, bon bras, là, tu sais, alors ce gars-là a tout pour être une vedette, et d'ailleurs, est pas probablement être un des visages et des principaux visages du baseball là, au cours des prochaines années.
Le vois-tu au champ centre éventuellement, Marc, comme O'Neill Cruz, parce que les qualités se ressemblent beaucoup. Sa cote défensive n'est pas si élevée. Marc, il est dans la moyenne. On aurait cru que ce serait meilleur. Est-ce que tu le vois au champ centre à un moment donné?
Écoute, moi, je suis un peu plus hésitant avec De La Cruz. Un joueur d'arrêt-court, c'est un peu comme un lanceur. On dirait qu'il c'est un peu plus tard dans sa carrière où là, il comprend peut-être un peu plus. T'sais, au début, un joueur comme Lindor est arrivé très bon, très habile. Mais là, tu vois aujourd'hui avec les Mets, il est tellement meilleur. Selon moi, là, dans sa prise de décision, dans la façon dont il se comporte. Fait que je me garderais quand même, à moins là, d'avoir un énorme prospect qui arrive et qui joue qu'à l'arrêt court. Pour l'instant, moi, je serais un petit peu plus patient avec De La Cruz à l'arrêt court. Écoute, le gars, il est âgé de 20... Il a 23 ans. Écoute, bien, tu sais, je veux dire... Fait que moi, je donnerais encore une couple d'années. Je pense qu'il peut prendre une certaine maturité en défense pour améliorer, là, si tu veux, son pointage en défense.
Oui. C'est un nombre de retraits sur des prises élevés, mais Marc, ça vient avec beaucoup de joueurs de talent aujourd'hui. On accepte cet état de choses en autant que tu produis. Ça te dérange.
Et en passant, frappeur ambidex. Tu sais, je veux dire, il y a tout ce gars-là. Il y a tout ce gars-là. Donc, oui, tu as raison que ça vient avec moi. En tout cas, je crois beaucoup à ce gars-là au cours des prochaines années.
Oui. Marc, on va parler d'un échange Andrew Vaughn, Aaron Civale. Ce n'est pas un échange comme tel, mais la réalité des deux joueurs impliqués, échangés pour des raisons différentes. Il y a un montant d'argent là, qui est passé de même. On va s'arrêter aux deux joueurs comme tels. Andrew Vaughn, Marc, il y a deux ans, je le voyais même comme potentiel candidat au joueur le plus utile à son équipe. Ce gars-là a joué à peine 30 matchs dans le baseball mineur lorsqu'on l'a fait graduer dans le baseball majeur. Notre collègue Alex Agostino disait grand bien de lui, aimait son élan, sauf qu'il est arrivé quelque chose en cours de route, Marc. Son potentiel ne l'a jamais atteint avec les White Sox. Cette année, ça a été plus difficile que jamais. Maintenant, passe à d'autres choses. Les Brewers l'ont acquis, on l'a renvoyé dans les ligues mineures. Il n'y a pas de garantie. Troisième choix au total, Marc, quand on l'a repêché, Andrew Vaughn. Il est arrivé quoi en cours de route?
Ben, tu sais, Alain, est-ce que c'est la confiance? Est-ce que, tu sais, on ne sait pas ce que ce gars-là vit, là, mais, tu sais, je veux dire, sa puissance. Je regarde ses premières saisons avec les White Sox de Chicago. Je regarde 2023, il y avait un WAR quand même de 1.1, avait frappé 21 coups de circuit, produit 80 points. Le potentiel était là de dire écoute, est-ce qu'il est tombé dans la mauvaise organisation? Est-ce qu'il est tombé je sais pas, moi, on. T'sais, chaque joueur doit être géré d'une manière. Je suis pas en train d'excuser là, son rendement, mais il y a quelque chose de toute évidence. Là, parce que le talent est là, il le fait quand même. Écoute, il y a eu 615 présences au bâton en 2023, 619 en 2024. Avec quand même 21 et 19 coups de circuit, est-ce qu'on a vraiment abusé de ses failles au point où il n'est pas capable de s'ajuster? Ça se peut aussi, ça se peut. Un beau risque, selon moi quand même, de le faire changer d'organisation, de le faire analyser par quelqu'un d'autre, d'aller fouiller, voir qu'est-ce qu'on, si on peut pas trouver quelque chose pour le faire débloquer. Donc ça, je trouve que c'est un beau défi que s'offrent les Brewers. Puis en même temps, les Brewers se débarrassent d'un gars qui, selon moi, est très égocentrique. Et puis ça, tu n'as pas besoin de ça dans une équipe.
Ouais, ben Aaron Civale, lui, venait de perdre son poste de lanceur partant. On venait de rappeler un des gros prospects de l'organisation. Puis Civale, à sa défense, Marc, bon, égocentrique. Ça, c'est le paradoxe du baseball, Marc. Civale, c'est sa dernière année de contrat. S'il veut augmenter sa valeur, il faut qu'il lance. Se sent plus à l'aise comme lanceur partant, donc a pensé à son avenir à lui. Ça, c'est clair.
Hey, écoute, Alain, il s'est promené, là, Civale, là.
Oui, depuis trois ans.
C'est pas le gars qui a laissé sa marque là, à chaque place qui est resté. Donc, tu sais, à quelque part, les Brewers vont bien. D'ailleurs, leur lanceur, en raison de leur lanceur, ils vont très, très bien. Écoute, c'est ça. Fait que. Tu sais, oui, c'est important, ta carrière, on le sait, là, individuellement, là, c'est un sport d'équipe, mais très individuel, mais ça reste que ça chatouille pas mal de monde lorsque tu mets le nom derrière en priorité et non ce qui se passe en avant. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ça chatouille. C'est pour ça que on n'a pas hésité à faire la transaction, là, aussitôt qu'il a été. Tu sais, puis... Des fois, là, tu t'en vas dans. Tu perds ton poste, là, mais ça peut être pour un départ, ça peut être peut-être pour deux départs, puis tu vas le reprendre, ce poste-là, parce qu'il y a toutes sortes de choses qui se produisent. Mais dans ce cas-ci, lui, il a dit non, moi, je ne veux rien savoir de ça. Fait que c'est correct. Peut-être que son mariage avec les White Sox va l'aider à aller peut-être chercher un nouveau contrat, mais je peux comprendre les organisations qui sont un peu. Là, on n'aime pas l'énergie que ça dégage. C'est une attitude à la porte dégage.
Oui, et dégage, ben c'est ce qu'on lui a dit à un moment donné. Marc, et celui qu'on a rappelé, Marc, on parle de repêchage, là, Jacob Mizrowski. C'est un grand de 2 mètres, ça rentre à 100 000 à l'heure, c'est un grand sec.
Ouais.
C'est un grand sec, encore une fois, deuxième ronde. Pourquoi pas première ronde quand tu lances une. Est-ce que c'est parce qu'il était dans une institution peu connue, le Crowder College, ça, c'est dans le Missouri? Ça veut dire que toutes les équipes ont passé tout droit au premier tour là, sur ce gars-là.
Oui, mais encore, tu sais, Alex nous l'explique souvent, là, à un moment donné, il y a des raisons derrière tout ça, là, parce que évidemment, là, c'est pas mal de plus en plus difficile à cacher du monde. Ben, va dire, écoute, à 103, là, pour commencer le match, t'es mieux d'être prêt à l'affronter. Mais quand même, une très bonne première sortie, une couple de buts sur balle là-dedans, mais ça vient avec, hein, souvent, lorsqu'un gars lance à évidemment, telle vélocité et, peu d'expérience. Mais ça regarde bien. Ça regarde très bien pour les Brewers à ce niveau-là.
Oui, et lors de son deuxième départ, ben il sera encore sur une séquence sans donner de coup sûr. Il n'a pas encore donné de coup sûr en 5 manches à sa première sortie. C'est pour ça que Sévalli, on lui avait dit, ben regarde, on en a un qui pense qu'il va être meilleur que toi, là, avec ta moyenne de proche de 5. Là. Regarde, si tu n'es pas capable de nous aider en relève, on va t'envoyer ailleurs. On va t'envoyer ce qui est le plus proche de la Sibérie, probablement. Marc, on aurait pu l'envoyer au Colorado. Ça aurait été encore pire. Mais je pense que l'acquisition d'Andrew Vaughn, c'est un bon pari, comme tu le disais tantôt.
Oui, oui.
Marc, on va terminer. On a perdu quelqu'un qu'on a connu tous les deux au cours de la fin de semaine. Tom Lapointe. J'ai eu l'occasion de le côtoyer à mes débuts, Marc. Et là, on parle de la fin des années 80. C'était ce qui était CKVL à cette époque-là. C'est une radio AM 850. Il travaillait là. Je l'ai revu par la suite à TQS au début des années 90. Toi, tu l'as connu... Évidemment, c'est un amateur de sport comme on les voyait à l'époque, c'est-à-dire aujourd'hui, on est dans l'ère de l'hyper-spécialisation.
Ouais.
Mais dans les années 70-80, même début 90, Marc, on faisait du sport et on touchait à peu près tous les sports. Et Tom était dans cette lignée-là.
Oui, absolument. Absolument. Moi, Tom, tu sais, Alain, les gens qui t'aident en début de carrière, et t'as parlé tantôt que tu l'as connu en début de carrière, moi, ça a été le cas lorsque je suis devenu... analyste baseball, j'ai pas sauté d'année, là. J'étais joueur, puis l'année suivante, je suis devenu donc analyste. La radio des Expos, c'était CKAC à l'époque. Roger, Jacques, Claude Raymond, Alain Chantelois, les gars, ils étaient en place. Puis moi, ben, je tentais de faire ma place là-dedans. Puis Tom animait la tribune téléphonique à CKVL à ce moment-là. Et avait appelé Richard Morancy pour qui était à ce moment-là qui s'occupait évidemment du marketing et communication chez les Expos de Montréal. Et Tom avait dit, écoute, pourquoi je prends pas le jeune Griffin à mon émission, tout ça. Fait que, tu sais, moi je commençais dans le métier, il fallait que je me fasse un nom, une place, puis Tom m'a offert donc. Alors c'est moi qui étais le collaborateur baseball à CKVL à l'époque avec Tom Lapointe. Alors on jasait à tous les jours. À l'époque, les expos étaient là, puis on comprenait qu'il y avait des matchs tous les jours. Donc on jasait 5 fois semaine avec Tom. Donc, tu sais, puis ça, c'est des affaires que tu... Tu sais, moi, ma carrière, 30 ans plus tard, je fais encore ça. Fait que, tu sais, c'est important de souligner que ce gars-là a été très important pour moi de me donner une chance à ce niveau-là. D'autres l'ont fait aussi à la télévision, mais ce que je veux dire, c'est que Tom, il a pas hésité, puis il a été bon, puis c'est un gars qui a vécu plein de choses dans sa vie. Puis plus tard, ben je me suis retrouvé à couvrir des matchs, évidemment, des expos ou ailleurs à Los Angeles. À chaque fois que je passais par là, parce qu'il habitait Los Angeles, ben j'appelais Tom, puis Tom, on allait manger ensemble, on jasait de... Tu sais, c'est un grand rêveur, c'est un gars qui aimait la vie, qui voulait, il avait toujours des projets en tête. C'est le genre de gars que... on en voit moins un peu des gars qui étaient capables de faire ça. Donc, j'ai beaucoup aimé Tom Lapointe. C'est un gars qui a marqué ma très jeune carrière. Puis ça, ben, je vais toujours m'en souvenir.
Oui, et comme je le mentionnais, Marc, moi, ce qui me frappe, surtout quand on regarde ça 30 ans plus tard, c'est la place qu'il tenait au baseball, là. Et la place qu'occupaient les expos dans le paysage médiatique montréalais à ce moment-là, ça nous rend un peu nostalgique. Mais au moins, on l'a vécu, cette période-là, Marc, et de voir qu'à une époque où, disons qu'il y en a beaucoup qui commençaient à laisser les expos de côté, ben, dans une station qui vivotait, il faut bien le dire, là, pour être passé à CKVL dans ces années-là, une station qui vivotait, mais prenait la peine quand même de donner la place à une équipe professionnelle importante à Montréal. Et quand je dis que c'est un amateur, c'est un aimant du sport. Il y avait d'autres intérêts, mais c'est le sport qui l'a mis sur la map, là, si je puis dire, là, donc, Tom Lapointe, puis je pense qu'il n'a jamais oublié ça.
Non, exact. Et puis, ben, il va toujours aussi... On va rappeler Tom aussi pour le célèbre scoop de Wayne Gretzky. Là, un gars de Montréal qui découvre qu'un gars d'Edmonton s'en va à Los Angeles, c'est quand même assez spécial.
Oui, et la leçon, c'est une leçon que tous les journalistes devraient... C'est faites attention qui vous côtoyez, cultivez vos contacts, vous ne savez jamais quand est-ce que ça peut servir. Voilà. Tom, coup de chapeau. Et tes souffrances sont terminées. Ton passage a été marquant dans l'univers médiatique québécois. c'est l'horaire des matchs qu'on vous présente. C'est l'horaire des matchs de la semaine à RDS, qui est une présentation de Lester's, qui est le maître du smoked meat et des hot dogs depuis 1931. Ça peut être pour un match, ça peut être pour un barbecue, ça peut être pour un festin en famille. Lester est toujours au rendez-vous, disponible chez votre épicier préféré. Trois matchs cette semaine, les trois à 19h, les trois à RDS2. Donc, on va commencer ce lundi. Les Yankees de New York qui vont tenter de se relever de ce balayage face aux Red Sox de Boston ce lundi. Ce sera contre les Angels et Mike Trout. Marc, c'est deux équipes qui feront beaucoup de coups de circuit. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais ils sont parmi les meneurs du baseball majeur. Ça ne fait pas l'affaire de Ron Washington, mais c'est comme ça qu'on joue chez les Angels cette année. Donc, 19h à RDS2 ce lundi. Mercredi, les Mets contre les Braves d'Atlanta. Les Braves qui ont une pente abrupte à relever. Les Mets qui se sont fait surprendre par les Rays en fin de semaine. Donc, ce duel intéressant mercredi à compter de 19h également. Et dimanche, les Mets contre les Phillies de Philadelphie. Où en sera-t-on dans cette lutte dans l'Est de la Nationale? C'est une série très importante au cours du prochain week-end. On vous présente évidemment le dernier match de ce duel entre les Mets et les Phillies. Mais voilà ce qui complète ce balado bien rempli et ça fait juste commencer. La date limite de transaction, c'est dans moins de deux mois, enfin dans un mois et demi. Il risque de se passer bien des choses au cours des prochaines semaines. On se souhaite tous du bon baseball, amusez-vous et on se dit à la prochaine. Bye bye.
Balado compte complet vous a été présenté par Plan de match à Boucherville et au Saguenay, fiers partenaires de votre passion, et par les Capitales de Québec. C'est plus qu'accessible, c'est plus que du baseball.